Je continuerai de parler de l'identité nationale parce que je crois que l'identité nationale pour un peuple, c'est quelque chose d'essentiel. Et parce que je crois que la France traverse une crise d'identité.
Alors que la plupart des autres pays d'Europe étaient des pays d'émigration, la France était déjà un pays d'immigration. Tout le développement industriel de la France va reposer sur l'immigration. Donc ça fait une des particularités de la France. Donc ça devrait entraîner une ouverture d'esprit, enfin je dirais une tolérance du phénomène plus grande que dans d'autres pays qui découvrent seulement les questions. Mais non.
Historien pionnier en matière d'immigration, Gérard Noiriel s'est vu médiatisé récemment quand il a démissionné de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Une démission en réaction au ministère de l'immigration et de l'identité nationale créé par Nicolas Sarkozy.
Je veux que l'immigration soit maîtrisée, que notre pays fixe chaque année le nombre des étrangers qu'il peut accueillir dans des conditions qui respectent la dignité de la personne. La France ne peut pas être le seul pays au monde qui ne puisse décider librement de qui y est le bienvenu et de qui n'y est pas souhaité. Je souhaite qu'on ne puisse pas s'installer durablement en France si on ne se donne pas la peine de parler et d'écrire le français. Je souhaite qu'on ne puisse pas vivre en France si on ne respecte pas notre culture et nos valeurs.
La France n'a pas à rougir par rapport aux autres pays d'Europe. Il y a eu une tradition du droit d'asile, il y a des gens qui se sont battus, pour ça il faut aussi le reconnaître, parce qu'autrement on désespère tous les gens qui essayent un peu de faire quelque chose. Mais la France est le pays du monde qui avait le plus grand nombre de réfugiés dans les années 30. Si on veut absolument défendre une identité nationale, bon, ben pourquoi pas, mais défendons ça. Alors que dans la politique actuelle, il faut défendre l'identité nationale, mais on s'aligne sur les plus mauvais pays d'Europe en ce qui concerne le droit d'asile.
Gérard Noiriel est venu à Marseille, à la librairie L'Odeur du Temps, invité par Agone et les Amis du Monde Diplomatique, et aux archives départementales dans le cadre du cycle Histoire et Mémoire, initié par l'association Approche Culture et Territoire. Il a donc présenté ses deux nouveaux livres. Le premier s'intitule « À quoi sert l'identité nationale ?» et le second, c'est « Immigration, antisémitisme et racisme, discours public, humiliation privée ». La Grenouille vous propose un décryptage en trois épisodes de la question de l'identité nationale. Née au XIXe siècle, l'identité nationale est rapidement présentée comme un problème et ne cesse alors d'alimenter le nationalisme. Popularisée par le Front National, l'identité nationale est remise au centre de l'actualité politique par Nicolas Sarkozy. Dans cet épisode, Gérard Noiriel retrace l'évolution de la question nationale depuis un moment fondateur, la Troisième République. À travers le prisme des mutations de la presse, il analyse notamment l'affaire Dreyfus, l'Érix marseillaise de la fin du XIXe et les discours politiques qui s'ensuivent.
Je dis souvent que, pour moi, 1889, c'est plus important que 1789, sur bien des points. C'est un peu, peut-être, caricatural, mais c'est pour vraiment souligner l'importance des mutations de la Troisième République. 1889, c'est la première loi sur la nationalité française. Hein. Donc, c'est un peu cette loi qui, à mon sens, illustre bien l'ampleur des changements. Avant 1889, on ne savait pas qui était français, qui n'était pas français dans les classes populaires, avant les années 1880. Alors, si vous voulez, la Troisième République va mettre en place les bases du régime sur lequel on vit aujourd'hui. C'est-à-dire, d'un côté, il y a une démocratisation de l'accès à la politique, avec l'intégration des classes populaires au sein du jeu politique. Ça, c'est à mettre à l'actif de la République. Il y a les lois qui facilitent la participation des classes populaires à la vie politique. Il y a la loi de 1881 sur la liberté de la presse, les lois de Jules Ferry sur l'école, etc. Tout ça est très logique, c'est pendant l'époque Jules Ferry, hein, que sont ces lois qui créent les bases d'un système démocratique. C'est assez impressionnant de voir la cohérence de ce système, hein, puisque évidemment, si vous voulez qu'il y ait une participation du peuple tout entier à la vie politique, eh bien, il faut non seulement une loi sur la liberté de la presse, mais encore faut-il que les gens sachent lire et écrire. majorité des Français savaient déjà plus ou moins signer leur nom, etc. Mais ce qu'on appelle le français primaire, hein, que Peggy stigmatisera par la suite, cette école primaire, homogène sur tout le pays, etc., qui inculque à l'ensemble des Français, donc des petits Français, les mêmes bases, les mêmes références, c'est à mettre à l'actif ou au passif, comme on veut, de la Troisième République. Et ça crée donc un espace homogène par rapport aux références, mais en même temps, apprendre à lire et écrire, ça permet aux gens de lire le journal. Et là, moi, c'est une des principales critiques que je ferais à mes travaux antérieurs, c'est que j'ai vraiment sous-estimé l'importance des mutations de la presse dans à la fois l'histoire du nationalisme, de toutes ces questions de racisme, d'immigration, etc. Je crois qu'il y a vraiment là, dans les années 80, ce que souvent aujourd'hui on met sur le compte des médias, en fait on le voit apparaître avec la presse écrite dans les années 1880. On voit très bien comment les catégories qui sont diffusées par les journalistes à partir des faits divers, etc., sont intériorisées par un certain nombre de gens. Les gens se réfèrent au journal, donc c'est écrit dans le journal, donc c'est vrai, donc ça va légitimer, vous voyez, des actes de violence ou un certain nombre de propos, etc. La manière même de parler des autres change parce que les gens ont des références qui leur viennent du journal. J'ai comparé comme ça des enquêtes qui avaient été faites dans les années 1860 et des enquêtes qui ont été faites dans les années 1880. En 20 ans, vous voyez un changement considérable. Vous avez par exemple une de ces enquêtes, un gars qui fait le tour de France pour parler de la vie du peuple. Bon, il vient à Marseille d'ailleurs. Il vient à Marseille, il s'appelle Audigan, hein, si vous regardez. Bon, ben, qu'est-ce qu'il voit à Marseille ? Il voit des ouvriers, bon, et quand il va dans les campagnes autour des paysans, etc. Mais jamais il ne va définir les personnes à partir de leur origine. Jamais il ne les définit par la nationalité. Or, à cette époque-là, dans les années 1860, vous savez que c'est une époque de très forte immigration italienne à Marseille. Bon, il ne les voit pas. 20 ans plus tard, on ne voit plus que ça à Marseille. À partir de 1881, ce qu'on a appelé les vêpres marseillaises, vous savez, cet événement qui, vous avez une bagarre entre ouvriers, je dirais plutôt piémontais qu'italien d'ailleurs, et marseillais, qui va faire 3 morts, je crois, bon, et qui fait une affaire nationale, c'est la première grande affaire nationale concernant l'immigration, eh bien, on a là de nouvelles lunettes pour voir la société. On ne voit plus dans les discours journalistiques ou dans ces enquêtes, principalement, les gens à partir de leur appartenance sociale, on les voit à partir de leur origine nationale. Donc ça, c'est vraiment un problème majeur qui commence à apparaître sur la Troisième République. Alors moi, je me suis demandé, mais comment ça se fait qu'il y a un changement aussi rapide ? Eh bien, je crois que le phénomène majeur, c'est l'irruption, donc, de la presse de masse. C'est-à-dire, vous avez, en gros, le mécanisme, c'est vous avez les lois de Jules Ferry. Grâce aux lois de Jules Ferry, vous avez tous les Français, donc, qui sont passés par l'école républicaine, ils savent lire et écrire, et en gros, ils savent déchiffrer un journal. Donc vous avez une extension du marché des lecteurs de journaux potentiels. Donc vous avez des entrepreneurs de presse, des capitalistes, qui apparaissent, qui profitent aussi de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, évidemment, et qui créent des nouveaux journaux. Et le nombre des lecteurs de journaux, pour vous montrer l'extraordinaire changement, en gros, dans les années 1870, vous aviez 1 million de Français qui lisaient le journal tous les jours. 20 ans plus tard, vous en avez 10 millions. L'explosion multipliée par 10 en 20 ans, c'est énorme. Donc vous avez une concurrence extraordinaire qui apparaît à ce moment-là pour capter le lectorat populaire. Donc vous avez des entreprises qui ont mobilisé des capitaux. Enfin, c'est le capitalisme qui pénètre dans la presse. Et à ce moment-là, apparaissent 4 grands journaux qu'on appelle les millionnaires, parce que chacun d'eux a plus d'un million de lecteurs. C'était considérable, c'était plus que les journaux d'aujourd'hui. Hein. Mais à l'époque, il n'y avait pas la télévision. Et ces 4 journaux, à eux seuls, ils faisaient la moitié de l'audience totale des quotidiens. Donc c'est eux qui créent l'opinion publique, comme on dit. Ce sont ces journaux qui créent les sujets dont tout le monde doit parler. C'est-à-dire ils jouent le rôle que joue aujourd'hui la télévision. Hein, puisque, après des études récentes, 70% des Français aujourd'hui se font un avis politique en regardant les journaux télévisés du 20h. Hein, 70%. Et on constate que ces journaux vont fabriquer, vous voyez, une information qui va emprunter la rhétorique du fait divers. On raconte au bon peuple de France la politique comme on raconte les faits divers. Les faits divers, c'est les crimes. C'est ça qui marche. Les journalistes, c'est pas parce qu'ils avaient une idéologie comme ci, comme ça. Ils faisaient des trucs parce que ça marchait. Ils voyaient que s'ils parlaient du dernier crime qui avait eu lieu dans le coin, eh bien, le nombre de leurs lecteurs augmentait. Ils auraient été bien bêtes, mettez-vous à leur place, de s'en priver. Donc, on voit la pénétration dans cette logique du fait divers dans le journalisme. Et on s'aperçoit que les catégories du récit criminel sont utilisées aussi pour parler d'autre chose. C'est à partir de ces récits qu'on va réussir à intéresser les paysans, qui étaient la majorité de la population française était paysanne, encore faut pas l'oublier, mais aussi les ouvriers, à la politique internationale. Parce qu'avant, sous le Second Empire, les gens du peuple, ça les intéressait pas, c'était pas leur vie. Bon, à partir de la République française, on leur dit, mais ça vous concerne. C'est vrai que ça les concerne quelque part, parce que l'une des autres lois de la République, c'est la conscription obligatoire. Ça veut dire que désormais, s'il y a une guerre, tout le monde ira la faire. Mais pour intéresser des gens du peuple aux péripéties de la vie diplomatique, voyez, aux relations entre la France et l'Allemagne, avec l'Angleterre, etc., il fallait que les journalistes présente ça, vous voyez, sous la forme de petits récits, et ces récits sont toujours construits de la même manière. Vous avez des victimes, vous avez des agresseurs, et vous avez un juge, hein, ou un policier. Voilà, c'est le schéma de base. Donc, la politique internationale est présentée comme ça. Les victimes, c'est toujours les Français, donc c'est le « nous » qui se construit à ce moment-là, « nous, Français », et les agresseurs, c'est toujours les étrangers. Et d'ailleurs, la première affaire qui éclate à Marseille en 1881, c'est la conséquence de cela, puisque... Donc cette violence xénophobe, elle est la conséquence d'une rivalité diplomatique entre la France et l'Italie à propos de la Tunisie. Un problème colonial se greffe là-dessus. C'est-à-dire que la France a écarté l'Italie de la Tunisie, a mis la main mise sur la Tunisie, et lorsque le régiment français qui avait accompli ce haut fait revient à Marseille, débarque à Marseille, il se promène dans la ville est pavoisée, mais vous avez... le club des Italiens, l'association des Italiens, qui siffle. Ils ont refusé de mettre le drapeau bleu-blanc-rouge à leur drapeau. Ils sifflent. Du coup, des remous dans le public et les gens qui manifestaient en faveur des soldats français se précipitent vers le local italien. Ils manifestent et puis après, il y aura une chasse à l'homme qui va durer 8 jours dans les rues de Marseille et qui aboutira donc à ce petit massacre. Enfin... Donc, on voit le lien entre la grande politique et la petite politique. Et l'autre élément qui est majeur, c'est les relations de travail également dans la presse de masse vont être présentées comme ça. Avant, dans la presse, on présentait surtout les conflits patron-ouvrier. C'était le schéma de la lutte des classes, si vous voulez. De plus en plus, on voit apparaître un nouveau discours qui est le discours qui présente les affrontements ou les rixes qui pouvaient exister dans le monde ouvrier comme des affrontements de nationalité. Donc, c'est une nouvelle rubrique qui apparaît dans la presse, rixes entre ouvriers français et étrangers. Et, par exemple, à Marseille, où depuis avant la Troisième République, il y avait souvent des violences, c'était parce que c'était une époque beaucoup plus violente qu'aujourd'hui, quoi qu'on en dise, eh bien, ça apparaissait comme des problèmes internes au monde ouvrier. Désormais, ça devient un problème national. Donc, l'affaire de Marseille, c'est la première grande affaire qui est présentée comme ça, comme... un affrontement entre des patriotes français qui ont défendu l'honneur et la fierté d'être français contre ces Italiens qui avaient sifflé le drapeau français. Donc pour moi, c'est très intéressant parce que, vous voyez, ce schéma, on ne le voit pas avant, hein, il n'existait pas avant. On le voit vraiment brutalement apparaître à ce moment-là, c'est encore le schéma qu'on a aujourd'hui. Tous ces discours sur la fierté d'être français, sur le drapeau, on voit donc une matrice qui se met en place à la fin du XIXe siècle qui reste encore présente aujourd'hui. J'insiste là-dessus parce que beaucoup de gens disent que c'est la faute des médias, la télé, etc. Non, moi je crois que la télévision a renforcé ces mécanismes, mais elle ne les a pas créés. C'est la presse de masse qui a créé vraiment cette manière de voir les choses. En disant cela, je ne voudrais pas avoir l'air de dénoncer la presse, puisque là, j'ai parlé de ces grands journaux qui font le maximum d'audience, mais en même temps, vous avez un grand nombre d'autres journaux qui apparaissent, qui combattent ça. Hein. Vous avez les journaux
militants, les journaux ouvriers. Vous avez aussi bon des journaux qui sont pas forcément non plus militants, mais qui essayent d'ouvrir la curiosité des citoyens sur d'autres cultures, etc. Donc c'est le monde de la presse, le monde du journalisme est un monde traversé de contradictions, comme aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Mais vous avez des dominants et des dominés dans chaque milieu. Et les dominants, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que c'est qu'un dominant ? Ben, c'est celui qui tient le marché, c'est le plus riche. Eh bien, ce sont ces grands journaux qui sont les plus riches, parce qu'ils ont le plus de lecteurs. Et ce sont eux, vous voyez, qui fabriquent ces représentations. Mais ces journaux-là n'ont pas de discours politique explicite. Parce que quand vous avez 1 million de lecteurs, vous avez parmi vos lecteurs des gens qui votent à droite et des gens qui votent à gauche. Donc ce n'est pas votre intérêt en tant que patron de presse d'avoir une ligne politique précise. Donc ils n'ont pas de ligne politique précise, ils sont républicains en général, mais ils construisent des stéréotypes. C'est surtout ça qui est important, vous voyez. Ils construisent des stéréotypes et quand chaque jour dans la presse, vous mettez en scène dans ces petits récits dont je viens de parler l'étranger dans une vision péjorative ou comme vous le présentez toujours comme une menace, eh bien évidemment vous inculquez dans le cerveau des gens une sorte de réflexe étranger, immigré égale menace. Donc c'est plutôt par rapport à la construction de ces catégories, comme on dit, de ces stéréotypes, que le rôle de la presse va être important, ou aujourd'hui le rôle de la télévision, plutôt que dans une démarche politique explicite. La démarche politique explicite, elle va arriver, parce que c'est au même moment qu'on voit naître en France l'extrême droite. Hein. C'est aussi donc une conséquence de la démocratie. L'extrême droite moderne, j'allais dire, c'est une conséquence de la démocratie. C'est le nationalisme, c'est une conséquence de la démocratie. L'antisémitisme sous sa forme moderne, c'est une conséquence de la démocratie. Et c'est un phénomène qui est, je trouve, frappant. Vous avez la loi sur la liberté de la presse qui date de 1881, et 5 ans après, vous avez l'ouvrage d'Édouard Drumont, La France juive, qui est considéré comme l'ouvrage fondateur de l'antisémitisme moderne, hein, qui est édité. C'est-à-dire que la liberté de la presse a aussi permis d'ouvrir la porte, si vous voulez, à des discours absolument horribles du point de vue de leur contenu. Et c'est le grand problème, je travaille en ce moment là-dessus, de cet ouvrage de Drumont. Cet ouvrage de Drumont que personne ne lit. Moi, j'ai fait l'effort de le lire. Il faut s'accrocher pour lire ce genre de choses. D'une part, parce qu'il fait 1200 pages. D'autre part, parce que c'est un tissu à la fois d'ineptie et d'horreur contre les Juifs. Mais ce livre-là a été chroniqué par toute la presse. Pas uniquement la presse d'extrême droite, par la presse bien pensante. Le journal qui était l'équivalent du Monde à l'époque s'appelait Le Temps. Il a consacré au moins 5 ou 6 articles à ce livre. Le journal qui était la référence culturelle de l'époque, qui s'appelait Le Figaro, qui était à peu près politiquement positionné de la même manière que Le Figaro aujourd'hui, va faire de ce livre-là un événement politico-littéraire. Et on va donner un crédit énorme à Drumont, qu'on va présenter comme à la fois un grand écrivain, un penseur, etc. Et ce livre va devenir un best-seller. Il va être vendu à plus de 100 000 exemplaires. Alors que Drumont, au départ, l'avait vendu à compte d'auteur. Il n'avait même pas trouvé d'éditeur. Et au bout de 8 jours, il n'avait pas vendu un. Et on voit, disons, la presse républicaine donc donner de la légitimité. Donc voilà aussi des choses sur lesquelles il faut s'interroger. Parce que, bien sûr, ces journalistes qui ont fait la promo de Drumont, ils n'ont pas dit forcément qu'ils étaient d'accord avec ce qu'ils disaient. Mais ils l'ont consacré, comme on dit. Ils l'ont consacré comme... quelque chose de sérieux dont il fallait parler, etc. Ça faisait débat, et la grand argument, ça a été de dire « ben oui, il y a un problème juif ». C'est le thème du problème juif. Alors, là aussi, par la suite, on aura constamment l'idée qu'il y a un problème de l'immigration. Donc, le simple fait de cautionner l'idée qu'une catégorie de personnes, en raison de son origine ou de sa religion, poserait un problème, c'est déjà une victoire du nationalisme. Par la suite, ce sera une tendance constante. On voit par exemple chez Maurras, donc qui a pris le relais de Drumont, le leader de l'Action française. Eh bien, constamment, il disait mais je vous demande pas d'être contre les Juifs. Je vous demande simplement de reconnaître qu'il y a un problème juif. Vous voyez. Et dès que vous acceptez ça, vous avez mis le doigt dans l'engrenage de stigmatiser une catégorie de la population. Donc ça, c'est aussi un enseignement de l'histoire par rapport à cette question de la, des discours publics sur l'immigration. Alors j'ai analysé aussi la réception de ces discours, et c'est très intéressant de voir, au moment de l'affaire Dreyfus, quand on a donc l'antisémitisme qui apparaît, le rapport avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'identité nationale. Parce que c'est à ce moment-là qu'est élaboré, on pourrait dire, le discours conservateur sur l'identité nationale. Celui qui a joué le plus grand rôle dans l'élaboration de la définition conservatrice de l'identité nationale, c'est Maurice Barrès, donc un écrivain politisé, qui va définir en gros l'identité nationale sous la forme qu'il appelait lui-même d'ailleurs le nationalisme. Le nationalisme est élaboré à ce moment-là par la droite pour faire pièce au socialisme, parce que c'est l'époque aussi du développement très fort du socialisme, du premier parti marxiste, le parti ouvrier français, des syndicats, des grèves, etc., etc., de l'anarchisme aussi. Bon, donc, pour contrer le discours révolutionnaire, on voit émerger le discours nationaliste. Et comment on reconnaît un discours nationaliste ? Parce que le nationalisme peut prendre de nombreuses formes différentes. On le reconnaît parce que il est toujours construit sur le modèle suivant. Il s'agit de défendre l'identité nationale, la nation française, contre la menace que représente l'étranger. C'est toujours la même chose, hein. Il faut défendre parce que nous sommes menacés de disparition. Donc, Barrès développe son discours sur l'identité nationale par rapport à l'ennemi de l'époque, qui est l'Allemand. Parce que c'est en référence à la guerre de 1870, au problème de l'Alsace-Lorraine, au conflit avec l'Allemagne, où les gens voient bien qu'une nouvelle guerre va se produire. Donc, il faut rassembler la nation française, qui est menacée de disparition, face à l'Allemagne. Et à partir de là, vous voyez, ce discours permet de discréditer toute forme de contestation de l'ordre établi. Parce que les ouvriers, par exemple, qui font grève, eh bien, on leur dit, vous êtes payés par les Allemands pour faire grève, pour affaiblir la nation française. Chez Barrès, c'est sous la forme de l'antisémitisme, hein, c'est le thème de l'espion juif allemand. Le juif est toujours allemand dans le discours nationaliste avant 14. Et les intellectuels, qui, à l'époque, ça voulait dire, quand le mot a été inventé, ça voulait dire critique par rapport au pouvoir. Aujourd'hui, le mot, en tout cas, quand on écoute à la télévision, ça veut dire le contraire. Mais à cette époque-là, ça voulait dire ça. Et Barrès stigmatisait constamment les intellectuels, hein. Voilà, les procès qui est fait à l'époque aux intellectuels, c'est de dire, vous sapez les bases de l'ordre social, vous critiquez l'armée, etc., etc., même si à la limite Dreyfus est innocent, mais il ne faut pas le dire, parce qu'on va abaisser la France, et l'Allemagne va nous envahir, et voilà, nous serons détruits. Donc il y a toujours cette logique-là. Dans l'entre-deux-guerres, c'est la main de Moscou. Le communisme va prendre le relais, donc le Front populaire, la droite présente le Front populaire, les grèves du Front populaire comme téléguidées par Staline, etc., etc. Dans la période récente, c'est le terrorisme islamiste, etc. Enfin, on a toujours cette structure. C'est nécessaire au fonctionnement du discours conservateur sur l'identité nationale. Alors, un des points que je dois ajouter, c'est que dans les sociétés démocratiques, dans les sociétés nationales, tout ce travail qui est fait pour essayer de construire de l'identité nationale, eh bien, il s'opère en même temps qu'un autre processus qui est le processus de différenciation des appartenances. C'est ça qui est souvent assez difficile à comprendre, mais que les sociologues comme Durkheim, par exemple, et après Norbert Elias ont bien montré, c'est que justement, vous avez, à cause du développement du capitalisme, du salariat et de toute une série de mutations, les individus, ils ont des identités de plus en plus diversifiées par rapport aux paysans qui vivaient dans son groupe, dans son village, sous le regard des autres, etc. Bien, quand vous vivez dans une ville, quand vous êtes salarié, etc., vous pouvez échapper à un certain nombre de pesanteurs identitaires qui pesaient sur vous. Vous avez plus de choix par rapport aux formes d'identification. Mais du coup, qu'est-ce qui devient tout à fait décisif ? C'est de savoir qui détient le pouvoir de vous assigner une identité. Quand vous avez le choix entre différentes possibilités de vous dire immigré ou ouvrier, eh bien, il y a des enjeux de lutte qui se mènent dans le champ politique entre les producteurs de discours publics qui vont mettre tel ou tel aspect de l'identité des personnes au détriment des autres
pour défendre, évidemment, leurs propres intérêts. Donc c'est comme ça que se déroule le nationalisme. À mon avis, c'est pour ça que le nationalisme émerge dans le champ parlementaire à cette époque-là. C'est pour contrer un discours développé par les partis de gauche, les partis révolutionnaires, qui, eux, privilégiaient l'identité sociale des personnes, évidemment. Donc, la capacité de mobilisation des individus liée à ce facteur social était très forte à l'époque, parce que les ouvriers, le monde ouvrier, vivaient évidemment dans des situations extraordinairement dures, d'accidents du travail, dans un très grand nombre de secteurs, mais aussi de répression. Donc il faut contrer ce discours, c'est vital. Il y a une sorte d'angoisse terrible de la part des conservateurs par rapport au succès du mouvement ouvrier. Et à mon sens, c'est l'analyse que des marxistes avaient faite avant, mais je suis pas d'accord avec le marxisme sur beaucoup de choses, mais là-dessus, je trouve que c'est fondé, c'est que l'exacerbation donc, du national a pour but de désamorcer la mobilisation de type social. Donc, on a un affrontement, et le problème, c'est que, surtout à cette époque-là où les gens vivaient dans la hantise de la guerre, ça, on a oublié aujourd'hui aussi ce que ça pouvait être, mais les gens qui ont vécu comme ça trois guerres successives, la guerre de 70, la guerre de 14, puis après la guerre de 39-45, si vous voulez, c'était dans le quotidien de la plupart des Français, et donc il y avait une hantise qui explique la capacité de mobiliser des gens en leur parlant du national, en les envoyant au monument aux morts, le drapeau, etc. Ça avait d'autant plus d'impact que pour les gens, ça représentait quelque chose de très fort chez eux. Quand ils avaient un frère, un père, etc., qui était mort sur le champ de bataille, bon, ils ne pouvaient pas traiter d'un revers de main le national. Donc la droite va se servir largement de cela. Et vous avez à ce moment-là une bipolarisation de la vie politique française avec d'un côté ce que j'appelle le camp national sécuritaire qui relie donc le discours national et le discours sécuritaire. Bon, les deux sont liés. Et à gauche, vous avez l'émergence d'un pôle qu'on peut appeler social-humanitaire qui fait le lien entre la fraction la plus éclairée des classes moyennes, notamment les enseignants, les professions libérales, etc., qui vont fonder la Ligue des droits de l'homme en 1898, hein, et puis le pôle socialiste, mouvement ouvrier, qui va se regrouper au sein de la SFIO, qui est la section française de la Deuxième Internationale, donc qui est une partie internationaliste, qui est emmenée par Jean Jaurès, qui va être le leader de la gauche. Donc on a cette bipolarisation qui se met en place à ce moment-là, et à l'intérieur de chacun des camps, on voit une sorte de distinction entre une extrême droite et une droite, et une extrême gauche et une gauche. Donc l'extrême droite, à l'époque, c'est l'Action française, donc fondée par Maurras, qui veut abattre la République pour rétablir la royauté. Hein. Donc l'extrême droite est contre la démocratie, alors que la droite républicaine, bon, défend la démocratie, défend la République, mais reprend quand même les thèses nationalistes. À gauche, vous avez une bipolarisation qui est comparable. L'extrême gauche veut aussi liquider la démocratie pour faire la révolution. Alors avant 14, c'est le mythe de la grève générale, faire la révolution pour faire triompher le socialisme ou le communisme, ce sont les thèses marxistes. Après la guerre de 14, ce sera le communisme. Mais c'est à l'extrême gauche qu'on va donc trouver le discours le plus violent contre l'identité nationale. Les anarchistes, les anarcho-syndicalistes sont contre l'armée. Ils sont antimilitaristes parce que l'armée avait un rôle répressif très fort à l'époque dans les grèves. Hein, à Fourmi, en 1891, vous avez 8 ouvriers qui sont fusillés par l'armée alors qu'ils manifestaient le 1er mai. Hein, donc il y a vraiment une haine chez les ouvriers à l'égard de l'armée parce que l'armée joue un rôle répressif. Mais dans la gauche parlementaire, chez les socialistes, notamment chez Jaurès, eh bien, y a une tentative pour définir l'identité nationale à partir d'une vision de gauche, si vous voulez. Je dis ça parce qu'on a retrouvé dans la campagne, hein, vous savez, de 2007, cette tentative chez Ségolène Royal, avec le petit drapeau et la Marseillaise. Mais ce n'est pas nouveau non plus. Il y a une tradition à gauche chez les socialistes pour essayer de rendre compatible le discours sur la nation et les idéaux socialistes. Le discours national sécuritaire, c'est un discours d'hostilité constante à l'égard de l'immigration. Ça, c'est clair. Et ce qu'on oublie souvent quand on parle de l'antisémitisme, c'est que les antisémites, comme par exemple Maurice Barrès, il dit toujours Barrès juif allemand.
Tous les juifs sont allemands pour lui. Parce que si vous voulez avoir un écho dans l'opinion, il faut être anti-allemand plus qu'anti-juif. Donc il y a un lien qui est fait entre juifs et allemands parce qu'il y a la haine des Allemands à cause de la guerre. Donc vous voyez, le lien entre l'antisémitisme et le nationalisme, il est évident. Et Barrès, par exemple, va être élu député de Nancy en 1893 et son programme est intitulé « Abat les étrangers ». C'est le titre de son programme. Donc on retrouve toute la panoplie des mesures, expulsion des étrangers, ils prennent le travail des Français, etc., protection du marché du travail national. Et c'est à ce moment-là qu'on voit le pouvoir républicain, si vous voulez, voyez là aussi la proximité avec aujourd'hui. Bien sûr, les gens qui sont au gouvernement, ils ne reprennent pas à leur compte le discours de l'extrême droite, mais ils essayent de faire des concessions, ils font quand même des concessions. Et par exemple, ils vont adopter des lois de protection du marché du travail national en 1893. C'est à partir de ce moment-là, vous avez toute une série de lois de protection d'un certain nombre de professions. Par exemple, dans les chemins de fer. Les chemins de fer, au XIXe siècle, ils ont été construits par les Piémontais avec des capitaux anglais. Parce que les Anglais avaient fait les chemins de fer 50 ans avant les Français. Alors vous avez toute une campagne qui se développe dans les années 1890 en disant « Mais vous ne vous rendez pas compte, nous sommes menacés par l'étranger et vous laissez les chemins de fer aux étrangers. » Donc, vous avez une loi qui est votée qui oblige toute personne voulant être dans un conseil d'administration d'une compagnie de chemin de fer, parce que c'était privé à l'époque, la SNCF n'existait pas, c'était une conquête du Front populaire, mais à l'époque c'était privé, donc toutes les compagnies de chemin de fer, les gens qui sont dedans, donc les patrons, doivent être français. Donc on voit à ce moment des Anglais qui sont éjectés des conseils d'administration. Bon. Et bien sûr, à la base aussi, c'est encore plus flagrant, tous les ouvriers qui avaient contribué à fabriquer les chemins de fer, eh bien, on leur pose un ultimatum, ou vous demandez votre naturalisation, ou bien vous allez travailler ailleurs. Donc on voit toute une série de secteurs, c'est la même chose en médecine par exemple, je n'ai pas le temps d'insister là-dessus, mais vous avez toute une mobilisation des étudiants en médecine contre les étrangers, à ce moment-là qui se développe, vous avez la majorité des étudiants en médecine sont extrêmement remontés contre les étudiants étrangers, et qu'est-ce qui va rester de tout cela? Eh bien ça va être l'invention des deux doctorats. Ça existe encore aujourd'hui. On oublie souvent que des résultats du nationalisme de cette époque ont été fixés dans des lois qui existent encore aujourd'hui. Les deux doctorats, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on distingue le doctorat d'État et le doctorat d'université. Le doctorat d'État, ça vous permet d'exercer la médecine en France. Pareil pour les pharmaciens, les infirmières, etc. Le doctorat d'université, ça vous permet de retourner chez vous, entre guillemets, dans votre pays d'origine, pour dire tout le bien que vous pensez de la France, mais ça ne vous permet pas d'exercer la médecine en France. Et cette discrimination, il faut appeler les choses par leur nom, va perdurer. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est en raison de cette loi que vous avez tous les hôpitaux en France ont laissé tiennent grâce à des médecins qui n'ont pas une égalité avec les médecins qui ont le doctorat d'État, justement, parce qu'ils ont fait une partie de leurs études à l'étranger, etc. Donc ça permet aujourd'hui, il y a une sorte d'hypocrisie incroyable, et quand on parle de discrimination, on ne parle jamais de ça, alors que c'est vraiment là flagrant, puisque c'est vraiment inscrit dans le droit. Ça permet donc de faire fonctionner, je dirais, les hôpitaux avec des gens qui sont mal payés par rapport à leurs collègues. Donc on a toute une série d'éléments, je ne peux pas développer, mais tout ce qu'on appelle la fonction publique s'est développé dans ce contexte aussi nationaliste. Mais ce qui est important par rapport à cette époque, c'est de souligner qu'on est quand même jusqu'à la guerre de 14 dans une logique libérale. Logique libérale, c'est-à-dire que l'État ne contrôle pas vraiment encore les frontières. Les premières lois qui vont commencer un petit peu à instiller ce contrôle des frontières par rapport à l'immigration, on les voit apparaître quand même vers 1888-1893. À partir de ce moment-là, on oblige un ouvrier étranger qui veut travailler en France à se faire déclarer dans la commune où il habite. C'est la seule chose qu'on oblige. Avant, il ne se déclarait même pas. Ce qui fait qu'avant, on ne savait pas combien il y avait d'étrangers en France. Ça ne préoccupait personne. Mais avec la République, donc, il y a cette démarche d'identification des étrangers. Mais il n'y a pas de contrôle, voyez, encore du marché du travail à ce moment-là. On reste dans un système relativement libéral. Ce qui va être déterminant dans les changements, c'est la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, c'est un événement, alors évidemment, extraordinairement tragique, mais ça a été aussi une période très importante dans les mutations de la société française et du rapport entre l'État et la société. Parce que, par exemple, moi j'ai travaillé sur la genèse de la carte d'identité. Eh bien, la carte d'identité pour étrangers, elle était dans les cartons du ministère de l'Intérieur depuis les années 1880. Mais le ministère de l'Intérieur n'arrivait pas à l'imposer. Pourquoi ? Parce que vous aviez le ministère des Affaires étrangères, qui est souvent le ministère qui défend le plus les immigrants, qui disait « non, ce n'est pas possible, on ne peut pas imposer une carte, ce serait complètement discriminatoire, ça ne s'est jamais fait, etc. » Donc ils bloquent, et ils n'arrivent pas, la police n'arrive pas à imposer cette carte. Mais une fois que la guerre éclate, on est dans un autre contexte. C'est, vous savez, l'union sacrée, c'est la militarisation de l'économie, c'est donc tout est sacrifié à l'union nationale, à l'effort de guerre. Donc à partir de ce moment-là, le ministère de l'Intérieur va pouvoir imposer ses dispositions. Et c'est en 1917 donc, que vous avez les premières cartes d'identité qui sont imposées à la fois aux immigrés étrangers et aux travailleurs coloniaux qu'on a fait venir, vous savez, de force de l'Empire colonial, d'Algérie, mais aussi d'Indochine, etc., pour certains étant au front, mais d'Afrique aussi, et d'autres étant recrutés dans les usines de guerre. Donc, c'est là le point de départ de la carte d'identité. Mais il n'y a pas que ça. La Première Guerre mondiale, c'est aussi le début de ce que, là aussi, une expression qui aujourd'hui est d'actualité, l'immigration choisie. L'immigration choisie. On entend dire que ce serait nouveau, que ce serait sorti comme ça du cerveau génial de tel ou tel ministre ou tel gouvernement, mais ce n'est pas vrai. L'immigration choisie, ça date de la guerre de 14. Sauf qu'on ne disait pas choisie à l'époque, on disait désirable. Voilà, c'était plus fort, vous voyez. Et ceux qu'on désirait et surtout ceux qu'on ne désirait pas, qu'on appelait les indésirables. Le mot indésirable, vous savez, il est resté dans le vocabulaire comme quelque chose de très fort, parce que les indésirables, c'est ceux qu'on a mis dans les camps à partir de 38-39. Donc, ce vocabulaire visant à qualifier les personnes, vous voyez, avec des jugements de valeur comme ça, on le voit apparaître à partir de la Première Guerre mondiale. Et donc, vous avez une politique d'immigration qui commence et on va sélectionner à partir de ce moment-là les immigrants à partir d'un certain nombre de critères. Il y a ceux qui sont là, entre parenthèses, c'est bien sûr les travailleurs de l'Empire colonial. On a besoin d'eux, mais d'emblée, on les met dans des camps de travail, surveillés. Il y a la hantise que ces indigènes fréquentent des Français et des Françaises, encore pire. Et donc, on ne veut pas qu'ils se mêlent, parce qu'on a peur aussi qu'ils aient des idées politiques, etc., etc. Donc, il y a vraiment un traitement spécifique là de l'immigration coloniale. Mais il y a aussi donc une gestion de l'immigration étrangère. Alors, quel est le principe de base de cette logique, de cette politique ? D'abord, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une politique d'union sacrée. Union sacrée, ça veut dire les syndicats se mettent avec les patrons et avec l'État pour gérer l'immigration. Et les syndicats tenaient beaucoup à ça, parce que les syndicats craignaient, à juste titre, parce que ça avait été le cas, notamment ici à Marseille, par exemple. On voit très bien ici l'immigration à Marseille, où à chaque fois qu'il y a un développement du mouvement ouvrier, les patrons vont chercher des immigrés. Et ils vont chercher d'abord donc les Italiens, après les Kabyles, etc., à chaque fois, puis ainsi de suite, pour casser les luttes et pour baisser les salaires. Ce sont des choses... il y a un consensus des historiens là-dessus. Donc c'est compréhensible que les syndicats aient une certaine crainte. Et donc pour protéger leur espace, les syndicats vont entrer dans cette logique de coopération et donc ils disent leur mot par rapport au recrutement des immigrés. Et puis après, alors, il y a d'autres critères. Les critères essentiels, c'est les critères professionnels. Les plus indésirables de tous les indésirables, ce sont, on pourrait dire, les commerçants, les artisans et les intellectuels. Ils sont indésirables parce qu'on dit ils viennent là concurrencer les professions dites nobles. En revanche, comme on manque de mineurs, comme on manque d'ouvriers agricoles, on manque d'ouvriers du bâtiment, alors là, oui, on les accueille à bras ouverts, enfin en tout cas jusqu'à la crise des années 30. Donc il y a une sélection professionnelle, mais il y a aussi une sélection par l'origine et par la religion. C'est-à-dire que l'effort du recrutement, et ça se poursuit après la guerre, va être orienté en priorité vers la Pologne et vers l'Italie. Pourquoi ? Parce que ce sont des catholiques. Alors, tout en haut, c'était les Polonais, hein, parce que les Polonais, voilà, c'était les Italiens, quand même, hein, déjà en 14, ils avaient fait beaucoup de grèves, etc. Donc, ils étaient, en 1894, quand même, il y a un Italien, un anarchiste italien qui va assassiner le président de la République française, hein, Sadi Carnot. Vous avez eu donc des pogroms anti-italiens, etc. Bon, donc les Italiens, voilà, c'est plus compliqué. Mais les Polonais, c'est l'idéal. Donc, on va chercher par famille entière, le patronat va chercher par famille entière des Polonais qui vont dans les mines, notamment du Nord. Bon, tout ça est bien connu. Mais j'insiste là-dessus parce que souvent, on entend dire encore aujourd'hui « Ah, mais oui, mais la République française, on n'a jamais fait comme aux États-Unis, on n'a pas fait de quotas pour recruter les immigrés. » Mais on oublie une chose, c'est qu'aux États-Unis, la logique de l'immigration américaine, c'est une logique libérale, c'est-à-dire que les gens venaient, ils arrivaient dans les ports, à Ellis Island. Donc là, effectivement, il y avait une sélection très forte qui fonctionnait avec des quotas par race, etc., etc. Mais après, les gens qui étaient entrés, ben, ils se débrouillaient tout seuls. Ils étaient livrés à la jungle des villes. Bon, tandis qu'en France, c'est pas du tout comme ça. Vous avez l'État qui contrôle l'immigration à tous les niveaux. Et déjà, des entrepreneurs, des patrons qui vont recruter dans le pays d'origine. Donc, là, je dirais, la discrimination, elle commence à ce niveau-là, puisqu'on va recruter en Pologne, on va recruter en Italie, on va pas recruter en Algérie. Donc, vous voyez, ça peut se faire, ce qui est assez caractéristique, je trouve, du discours républicain sur tout ça, avec une certaine hypocrisie, vous voyez. On affiche toujours les principes des droits de l'homme, mais quand on regarde comment ça fonctionne, et moi j'ai retrouvé des directives, des rapports d'experts, etc., qui le disent explicitement. Si on veut que ces gens-là s'assimilent, il faut des Polonais, ou il faut des Italiens, il faut... Donc, c'est là qu'on peut effectivement mettre en évidence le lien avec ce qu'on appelle le racisme, qui n'est pas forcément un racisme affiché, mais qui relève en tout cas des préjugés sur l'assimilation. Mais c'est compliqué à l'époque, la question des races, parce qu'en gros, quand on lit les discours sur les races, on s'aperçoit que les auteurs distinguent deux types de races. Aujourd'hui, on a oublié ça. Donc, moi, je ne suis pas du tout partisan d'opposer européens, non-européens. Ça, c'est un discours qu'on tient aujourd'hui, mais qui n'avait pas de sens à l'époque. Hein. Les Juifs, par exemple, ils n'entraient pas dans ce schéma européen, non-européen. Et dans la distinction des races, vous aviez ce que les auteurs appellent les races antagonistes et les races inférieures. Donc, il fallait les tenir éloignés parce que ceux-là ne pouvaient pas s'assimiler ou s'intégrer. La principale race antagoniste, c'est l'allemand. Donc, on ne recrute pas d'allemands, ce n'est pas possible. Bon. Mais tout le problème va être posé sur les Italiens. Est-ce que les Italiens sont une race antagoniste ou non ? Et la tendance qui va se développer, surtout avec Mussolini, dans les années 30, qui essaye d'agiter, vous savez, bon, c'est de dire, oui, les Italiens sont une race antagoniste. Et ce discours qui vise à traduire des questions sociales en questions nationales, on le rencontre dès le problème marseillais, parce que c'est, je crois que c'est ça qui est fondateur, on commence à dire, dès qu'il y a un problème social, une grève, une rixe, une violence, etc., on dit c'est parce qu'ils ne sont pas intégrés. On disait assimilés à l'époque. C'est la preuve qu'ils ne sont pas assimilés. Et ce discours, donc, on le trouve dès la fin 19e, il se reproduit de plus belle dans les années 30, et il y a une stigmatisation de la population italienne en disant, s'il y a une guerre avec l'Italie, toute la Provence, puisque la majorité des gens qui habitent en Provence sont d'origine italienne. Il y avait déjà 100 000 Italiens à Marseille en 1914. Hein, Bon, voilà, il y a cette angoisse aujourd'hui, ça a fait peut-être sourire, mais comme sans doute beaucoup de choses qui sont racontées aujourd'hui sur l'immigration feront sourire dans 50 ans. Mais elles ne faisaient pas sourire les gens de l'époque. Les gens de l'époque y croyaient, surtout que Mussolini agitait, vous savez, ce discours-là. Donc, voilà, c'est ce problème, ce discours qu'on retrouve encore aujourd'hui sur l'intégration qui se met en place. Et donc, on voit le lien qui est fait avec la question de l'identité nationale. Et les années 30 sont évidemment un moment où les choses se radicalisent, puisque là, vous avez la crise économique qui se développe. Et chaque fois que vous avez une crise économique, vous avez un retour du nationalisme. Et donc, l'extrême droite reprend du poil de la bête. Mais à l'époque, c'est aussi un développement très fort des luttes sociales. Le développement du Parti communiste, qui va aussi recruter beaucoup de ses militants parmi issus de l'immigration. Hein, l'immigration a joué un rôle majeur dans le développement du Parti communiste, surtout la deuxième génération. Et la victoire du Front populaire, qui va jouer un rôle majeur dans l'intégration de ces vagues d'immigration. Le Front populaire, on l'oublie souvent, mais ça a été un moment très fort pour l'intégration de tous ces millions d'immigrants qui étaient arrivés depuis la fin du XIXe siècle et qui vont se retrouver dans les luttes du Front populaire, dans le combat de classe et toute la mythologie aussi qui a été avec, pas que la mythologie, les acquis réels de cette période. Et le retour de Manivelle, c'est Vichy. Hein, donc vous savez, le Vichy, Pétain, c'est la Révolution nationale, c'est ça le thème. Donc c'est le point culminant des discours nationalistes concernant l'identité nationale.